CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce MAG où on prendra la direction de Caussade aujourd'hui, où l'Université Populaire propose tout au long de l'année différents ateliers hebdomadaires qui vont de l'art du vitrail en passant par l'apprentissage des langues et cultures de l'Antiquité ou par l'œnologie, mais aussi un cycle de conférences gratuites au rythme d'une par mois. La prochaine, c'est ce samedi.
CFM.
Image de l'autre, image de soi, le sens caché des relations interculturelles. C'est la prochaine conférence qui nous est proposée dans le cadre du cycle de l'Université Populaire de Caussade. Ce sera donc ce samedi 19 mars à 16h30 au Récollet, une conférence animée par François Boitard. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous nous proposez donc une étude de l'homme en société, en passant donc par cette image des autres. Alors, concernant les relations, l'image est primordiale, surtout pour le premier abord.
C'est-à-dire que nous nous construisons justement tout d'abord par la recherche justement d'une image, puisque nous vivons d'abord une rupture avec la mère, c'est élémentaire, et nous devenons même à ce moment-là un autre. Et nous avons à la fois une prise de conscience de l'altérité, que la personne qu'on croyait, avec qui on croyait être en fusion se trouve être une personne différente. Et en même temps, nous sommes nous-mêmes une personne différente. Et cette angoisse qu'on appelle l'angoisse de séparation, ce moment où on se dit on n'est plus avec l'autre, on en est séparé, on essaie de le reconstruire et de reconstruire cet univers fusionnel, ce qui fait qu'on va, se sentant un autre et voyant un autre, on va essayer de retrouver du semblable. Et c'est un petit peu la dialectique dans laquelle on s'engage depuis l'enfance, c'est-à-dire à la fois être semblable pour se rassurer en quelque sorte de cette rupture, et en même temps exister en tant qu'être et donc être différent des autres également. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'affirmer comme une personnalité, comme une personne au sein d'une société, mais en même temps au sein d'une société il faut se lier aux autres, et selon la manière dont a été vécue à la fois cette rupture et ce besoin de fusion, il restera toujours quelque chose malgré tout d'inquiétant chez l'autre. Qui est peut-être celui qui est à la fois la cause de notre rupture, la cause de nos malheurs en quelque sorte. On le voit bien dans les représentations multiples de l'autre au cours de l'histoire. Il est à l'origine de nos malheurs et en même temps il est à partir du moment où il devient semblable, où il devient un peu du même type que nous, et il devient un double, un consolateur, quelqu'un est avec nous. Et c'est ce tiraillement entre les deux qui va faire que pour l'avenir à la fois de notre vie et de l'avenir des sociétés, la question de l'altérité se posera de manière double, à la fois, si je peux dire, puisque le double est au cœur de la question de l'altérité, puisqu'on est dans la question de l'image. Les psychanalystes ont bien dit que l'individu se construit dès lors qu'il a conscience de son image, c'est-à-dire la fameuse étape du miroir. Mais le miroir, c'est le double nous-mêmes. Or, nous sommes confrontés à des doubles qui ne sont pas nous-mêmes, et plus ils sont différents de nous, et plus ils sont étrangers, et plus ils deviennent étranges, et plus ils peuvent être même angoissants. Et c'est toute la question des relations interculturelles, justement, c'est d'essayer de dépasser cette angoisse première, qui est, je dirais, la limite presque normale, d'avoir peur de l'autre. Quand on parle en public, on a le trac. Quand on est pour la première fois mis en contact avec quelqu'un, on peut ne pas forcément être à l'aise. Et puis on peut aussi avoir voir des attitudes chez l'autre, des langages, des postures qui nous choquent, qui nous ressemblent pas et qui peuvent nous angoisser. Et donc tout le travail que l'on peut mener, la réflexion qu'on peut mener dans la relation interculturelle, c'est justement de voir en quoi l'autre est peut-être pas si différent que ça. Qu'il y a des choses qui vont nous lier à lui, qui vont être semblables, trouver ce qu'on appelle des lieux communs, des points communs, ce qu'a très bien montré Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, avec le petit prince d'un côté, le renard de l'autre, qui sont deux personnages étrangers l'un à l'autre, et qui finalement vont créer des liens et vont progressivement s'entendre sur un lieu commun. Et je dirais que tout ce que j'essaie de développer dans cette intervention, dans cette conférence, c'est de montrer comment on part. De toute façon, il ne faut pas le nier devant la peur de l'autre, devant une angoisse liée à l'étrangeté, à la différence, qui sont liées en plus à nos premiers sens. Nos premiers sens, c'est d'abord le goût, puis l'ouïe, puis la vue. Et on éduque les enfants à savoir justement reconnaître le semblable, et c'est ce que j'explique par exemple à travers le jeu des sept familles, où il s'agit de regrouper les cartes identiques, hein, pour faire des familles, pour rassurantes en quelque sorte, et puis de l'autre côté, le jeu des sept erreurs, où il s'agit absolument d'apprendre à remarquer la différence, parce que la différence peut être synonyme de danger. Et c'est cette éducation première que nous avons, que l'on doit dépasser pour aller justement vers l'interculturalité, c'est-à-dire le lien avec l'autre, parce que de toute façon, nous sommes dans un monde de plus en plus planétaire, de plus en plus multiple, et le multiculturel devient la règle. Du coup, l'interculturel devient la situation régulière, et je serais tenté de dire que le transculturel est une manière de dépasser ces difficultés.
Alors voilà, justement, comment on passe de ce choc des cultures aux échanges interculturels? Vous parlez d'échanges planétaires, de villages globaux, ce n'était pas le cas à la naissance de l'humanité. Si on remonte à la préhistoire, on croisait pas tellement d'autres cultures.
Oui, bien entendu. C'est-à-dire que les échanges interculturels étaient, si on peut dire, extrêmement rares, bien que la science évolue là-dedans, puisque on vient de découvrir dans une grotte des restes de Cro-Magnon, c'est-à-dire l'homme actuel, et des restes de l'homme de Néandertal, qui nous a précédés, entre guillemets, et finalement, ils vivaient peut-être ensemble. Et on a trouvé aussi dans les gènes des liens. Donc peut-être que que dans la période préhistorique, les différences ou les altérités n'étaient peut-être pas aussi cruciales que chez nous. Et progressivement, ce qui s'est passé, évidemment, je fais dans cette conférence tout un développement également historique pour montrer qu'il y a plusieurs étapes dans la représentation de l'autre. Dans les sociétés premières, si on s'appuie sur, par exemple, les sociétés indiennes d'Amérique du Nord, qu'on connaît assez bien, on était homme que si on avait eu les scarifications, et sinon on était un non-homme, hein, on n'était pas encore un être humain. Dans la société, plus civilisatrice, on a un distinguo entre le civilisé et le barbare, en quelque sorte. Hein. Il y a eu les grandes découvertes. Alors là, c'était le choc, des grands chocs, puisqu'on se trouve les Européens se trouvent confrontés à ceux qu'ils vont appeler nus, féroces et anthropophages, c'est-à-dire des gens qui font tous les tabous possibles, puisqu'à la fois ils sont nus, ils ont des mœurs libres, croient-ils, et en même temps ils se mangent entre eux. Alors d'où évidemment l'horreur de cette, et malgré tout de cela va naître un choc, mais en même temps une réflexion qui progressivement va s'élaborer chez les philosophes, chez les gens, de quels sont ces autres, sont-ils humains ou ne sont-ils pas, la fameuse controverse de Valladolid, est-ce que les Indiens sont des êtres humains ou est-ce qu'ils sont des animaux, toute cette réflexion-là qui va mener ensuite à une explication au XIXe siècle avec Darwin, qui va donner un sens à tout cela dans une certaine mesure, mais un sens dont on supporte toujours les conséquences, c'est-à-dire que l'humanité aurait connu une évolution et qu'il y aurait des gens plus évolués que d'autres en quelque sorte, et que la différence porterait sur des niveaux d'évolution. Élément qui est encore très en prise aujourd'hui. Il y a encore dans les terrains de foot des gens qui jettent des bananes à des joueurs de couleur. On a encore des hurlements de singes. Cette perception-là n'est pas morte du tout, au contraire. Je dirais même parfois elle est ravivée. Et il s'agit de voir justement, nous évoluons entre deux risques. Celui effectivement de maintenir tous ces acquis de l'histoire qui nous amène à stigmatiser le différent, et puis ou à l'idéaliser parfois, hein, parce qu'il y a pas, il y a les deux aspects, soit on le considère comme abominable, soit au contraire comme extraordinaire. Et puis, au contraire, est-ce qu'on va vers une relativisation des cultures et on les met sur les mêmes plans et qu'on essaie de faire cohabiter, plus que cohabiter, échanger, et plus qu'échanger, produire de la culture en commun. Et il y a des moyens, il y a des lieux, la musique, l'art, etc., qui se retrouvent finalement de manière interculturelle. Et donc là, il y a des ouvertures qu'il faut espérer. Et puis en même temps, l'actualité nous montre le blocage qu'on peut avoir sur ces questions. Et donc l'interculturel, et je dirais même de manière plus avancée, les dialogues entre les cultures sont plus que jamais indispensables si on veut éviter justement les oppositions et les violences.
On est bien dans ce mag avec François Boitard, anthropologue et animateur de la conférence qui sera proposée ce samedi par l'Université populaire de Caussade à 16h30 au Récollet. On est en train de parler de l'image de l'autre, l'image de soi, le sens caché donc des relations interculturelles. À quoi sert l'image de l'autre? Comment se construit-elle? Comment passe-t-on du choc des cultures aux échanges interculturels? Comment passe-t-on du malentendu au bien entendu? Éléments de réponse dans ce mag, juste après la musique.
Forget that I was only your lover.
CFM, en Tarn-et-Garonne. Le mag.
De retour dans ce mag, on est toujours avec François Boitard qui est anthropologue et qui proposera une conférence pour ce samedi à 16h30 au Récollet de Caussade, une conférence autour de l'image de l'autre, image de soi, le sens caché des relations interculturelles sur une invitation de l'Université populaire de Caussade. François Boitard, vous avez parlé de l'image de soi, de la perception qu'on a de soi, donc
oui.
la renaissance qu'on doit faire quand on se rend compte qu'en fait on n'est pas notre mère. L'image de l'autre, hein, comment est-ce qu'on passe du malentendu ou bien entendu? Vous avez parlé d'art notamment.
Oui, ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Ce qui est très important, ce que je dis aussi dans cette conférence, c'est qu'il y a les différences qui se voient et les différences qui ne se voient pas. Les différences qui se voient sont souvent beaucoup plus proches de notre histoire, de notre identité ou de notre culture qu'on ne le croit. Par exemple, on reproche le voile, mais nos grands-mères portaient tout un voile. Donc, ça n'est pas forcément quelque chose de différent. C'est différent dans l'époque, dans le contexte. Mais ça n'est pas forcément différent tellement. C'est pour ça qu'on les voit, d'ailleurs. L'hypothèse, c'est même que les différences qui nous choquent ou qui nous font réagir sont souvent des choses qui sont liées à notre image de nous, justement. À notre image de nous qui se trouve révélée par un autre. L'autre vient nous révéler une image de nous-mêmes. Et ça peut être insupportable. Ce qui nous amène à réagir contre l'autre, évidemment, pas contre soi. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Puis la deuxième, c'est l'image de l'autre que nous avons, évidemment, par rapport à nos propres préoccupations. Et aussi, pas toujours visibles. Et je dirais même que souvent, elles ne le sont pas du tout. Par exemple, le mot terroir n'existe qu'en français. Il existe dans aucune autre langue. Donc, voyez, si on travaille sur le langage, on va voir qu'il y a des mots qui existent dans une société qui n'existe pas dans une autre. Donc ça veut dire que les visions et les langages utilisés ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est des différences auxquelles on ne fait pas gaffe. On n'a pas vraiment... c'est comme juste un petit exemple que je donnerai à la conférence. Les Allemands trouvent que les Français sont très incorrects parce qu'ils coupent toujours la parole, ce que je viens de faire d'ailleurs. Et les Français trouvent que les Allemands sont pénibles parce qu'ils n'en finissent pas de parler. Or, tout simplement, le Français met le verbe au début, donc on comprend assez vite la phrase, alors que l'Allemand met le verbe à la fin. Donc il faut attendre la fin de la phrase pour comprendre. Ce qui fait que, vous voyez, on a l'impression que les Allemands et les Français ont la même culture. Eh bien, pas du tout, ils n'ont pas la même structure de langue. Et à partir de là, il y a des différences culturelles et des malentendus. Et c'est pour passer du malentendu au bien entendu, eh bien, il faut travailler sur la connaissance, justement, de ces spécificités culturelles des autres, qui ne nous choquent pas, puisqu'on ne les voit pas, mais qui, une fois qu'on les connaît, sont très faciles à accepter. À partir du moment où j'ai compris que mon copain allemand met du temps pour parler parce que son verbe est à la fin, et que s'il veut être compris très vite, à ce moment-là, l'allemand va utiliser uniquement des prépositions fortes, schnell, des mots très courts. Et là, du coup, il paraît très incorrect pour nous, qui avons l'habitude de faire des phrases. Et là, d'un seul coup, on a quelqu'un qui va utiliser uniquement une préposition. Et là, on ne comprend pas. On dit, mais là, c'est vachement agressif, etc. Et ça, c'est typique de l'image de soi, l'image de l'autre. C'est-à-dire qu'on entend l'autre par rapport à soi-même, évidemment, et c'est comme ça qu'on a été construit. Or, il faut progressivement rentrer dans la manière dont l'autre voit le monde et l'autre peut le voir autrement. Et là, on rentre dans l'interculturel. Et puis, il y a une autre phase que j'appelle le transculturel, qui consiste à ce moment-là à trouver des points communs, à trouver des choses qui sont semblables, plutôt que d'aller chercher des différences. Et si on cherche, je dis toujours, il y a le jeu des sept erreurs, eh bien, on devrait trouver le jeu des sept ressemblances, c'est-à-dire qu'avec deux dessins différents, eh bien, qui paraissent complètement différents, eh bien, il y a sept points communs. Au musée d'Orsay, etc., qui justement essaient d'utiliser l'art pour montrer comment les artistes, eux, ont vu cette question du double et de l'autre façon de voir les choses.
Votre conférence qui aura lieu donc ce samedi au Récollet à Cossette sur une invitation de l'Université Populaire, la présentation de cette conférence qui s'intitule donc Image de l'autre, image de soi, le sens caché des relations interculturelles. Vous venez de les présenter un petit peu, ces sens cachés. Donc la présentation de cette conférence se conclut par « Sommes-nous si différents qu'on ne le pense ?» Alors clairement, vous venez de répondre « Non ».
Ben, évidemment, c'est-à-dire que non, nous ne sommes pas si différents qu'on ne le pense. Heureusement, nous sommes des êtres humains. Malheureusement, nous faisons tout pour essayer de nous convaincre du contraire. Et c'est justement là où il faut essayer d'agir.
Mais
le sens caché, c'est que justement, si vous voulez, les chiens ne se posent pas la question. Ils se reconnaissent tous, quelle que soit leur race. Ben nous, on a le contraire. On s'est construit des races pour ne pas se reconnaître. Alors que justement, il y a plein d'éléments pour lesquels nous pouvons nous reconnaître. Et le sens caché, il n'est pas que là. Il est aussi dans le fait que, je vous dis, il y a des différences qu'on ne voit pas, qui sont cachées, qu'on ne perçoit pas, et qu'il faut éclairer. Et puis, il y a des fois des effets de l'image de l'autre comme image de soi, qu'il faut aussi éclairer parce que ça a aussi un effet et parfois assez pernicieux ou positif, tout dépend un peu des circonstances. C'est très multiple l'interculturalité, c'est un domaine passionnant mais sur lequel malheureusement pour l'instant il n'y a pas encore trop de cours.
Comment ça se met en place, ça? Alors, on tombe un petit peu dans le domaine de la psychologique, mais...
Ça, je peux vous répondre sans problème, puisque j'ai été pendant 25 ans, plus de 30 ans formateur, justement, en anthropologie culturelle et en interculturalité. Ça se met en place d'abord par le fait de comprendre comment l'image de l'autre est en fait un reflet de nos préoccupations. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ce qu'on voit chez l'autre, c'est en fait une question qu'on se pose sur nous-mêmes, sans le savoir. Donc, c'est ça qui est caché déjà. Et ça, il faut le mettre à jour. C'est-à-dire expliquer aux gens, quand ils nous disent « Parlez-nous des Chinois, parlez-nous des Japonais, parlez-nous des... » On commence par parler des gens eux-mêmes. Quelle est leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment notre pays s'est transformé, etc., etc. Et puis ensuite, une fois qu'on a parlé de l'image de l'autre comme étant l'image de soi, ou tout au moins un miroir de l'image de soi non dévoilée, eh bien, on va pouvoir parler après de l'autre et de ses spécificités nécessaires à connaître parce qu'elles peuvent amener à des malentendus. Et puis, progressivement, essayer de faire des points communs entre là où il y a de l'entente, là où il y a des visions communes. J'ai souvent une image, je dis, si on prend trois îles, l'une dans le Pacifique avec des cocotiers, l'une en Norvège avec des rochers enneigés, et la troisième... avec des sapins. Si on regarde à la hauteur de la mer, on voit trois îles différentes. Donc on dit, c'est différent. Mais en fait, ces trois îles ont un soubassement identique. Le fond de la mer est le même pour tout le monde. Et donc, en fait, la raison pour laquelle ces îles ont été différentes, leur contexte ont amené à des formes différentes, mais les questions posées qui ont amené ça, elles sont semblables. Et en fait, tous les êtres humains se posent les mêmes questions, notamment la grande différence, number one, qui est la différence homme-femme. Pourquoi il y a des hommes et pourquoi il y a des femmes et pourquoi il y a une différence? Et à partir de cette question, elle est mise en scène, elle est répondue différemment selon les sociétés. Mais en fait, on se rend compte que la question est la même. Et c'est un peu ça le travail de l'interculturalité, c'est d'essayer de voir comment se trouve révélé sous des formes différentes. Et partir des formes différentes pour montrer en quoi ça peut correspondre à une question identique. Alors les questions identiques, on les connaît, hein, c'est le sexe et la mort, c'est etc. Et elles sont toutes exprimées souvent de formes très différentes. Les rites funéraires ne sont pas les mêmes, par exemple, selon les sociétés. Là, on enterre, là, on brûle, on met à dessécher, là, on mange. Hein, chez les papous, on mange le cadavre de la grand-mère jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Tout ça, ce sont des pratiques multiples, mais qui finalement peut-être disent la même chose. Et je dirais aussi dans la conférence l'importance du Musée de l'Homme aujourd'hui, qui a complètement retourné sa veste et qui a changé l'attitude et qui développe des expositions interculturelles. C'est-à-dire où une des clés pédagogiques de l'interculturalité, c'est la comparaison, c'est le mettre en rapport. Et je vais vous donner un exemple, je vous donnerai juste celui-là. Dans le Musée de l'Homme, il y a une grande armoire qui s'appelle « Culte des ancêtres ». Et là, vous avez des figures africaines, des figures océaniennes, des figures américaines, et puis vous avez le buste du général de Gaulle et vous avez le Christ. Donc en fait, cette vitrine révèle que ce masque bantou est en rapport avec le buste du général de Gaulle. Et combien nous avons en France d'avenues du maréchal de Gaulle, du général de Gaulle, combien nous avons d'aéroports, etc. Donc le général de Gaulle est partout. Il est partout, c'est le culte de l'ancêtre. Exactement comme il peut y avoir un culte des ancêtres en Afrique, mais qui va avoir une autre forme. Et comment le Christ est aussi un culte des ancêtres pour certains. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, le Musée de l'Homme nous dit, les formes sont différentes, mais la question est la même. L'ancêtre a une place dans la société. Et donc, ça, c'est comme ça qu'on va faire de la pédagogie interculturelle.
Et c'est la peur qui suscite l'incompréhension, qui suscite le malentendu.
Ben oui, exactement. D'ailleurs, le mot le dit mal entendu, c'est-à-dire que ça vient de la personne qui entend, et parce qu'elle n'entend pas ce que l'autre veut dire, mais aussi l'autre le dit d'une façon qui n'est pas toujours compréhensible non plus pour nous, compte tenu de notre langage. Je vous dis, toutes les sociétés ont une langue, mais n'ont pas toutes les mêmes mots. Il y a des mots qui n'existent pas dans des langues et qui existent chez nous, et il y a des mots qui n'existent pas chez nous et qui existent chez d'autres. Ce qui montre que, mais avec l'échange et avec c'est des choses qui se résolvent très facilement. Ce qu'on constate aussi dans l'interculturalité, c'est que lorsqu'il s'agit de comprendre la culture de l'autre qu'on ne perçoit pas, on l'accepte assez vite, sans aucun problème. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une attitude de l'autre qui correspond à notre propre attitude profondément enfouie, c'est là on a du mal à l'accepter. Parce qu'en fait, il s'agit de nous-mêmes. Et là, le travail est beaucoup plus long à faire sur soi-même plutôt que sur la connaissance des autres. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir demander à connaître les autres, alors qu'en réalité, comme les disaient les Grecs, il faut se connaître soi-même d'abord, avant de pouvoir connaître les autres.
Image de l'autre, image de soi, le sens caché des relations interculturelles. Une conférence animée par vous-même, François Boitard, qu'on retrouve donc ce samedi 19 mars à 16h30 au Récollet. Une conférence gratuite proposée par l'Université populaire de Caussade. François Boitard, on vous retrouve là-bas. Merci beaucoup.
Bonne journée. Au revoir.
Ce mag sera rediffusé à 17h et à 21h30, réécoutable à loisir et en podcast sur le site cfmradio.fr. Les infos ne tardent pas.